Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h après Vibrasoise, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour ce 16 avril. Nous allons pendant une petite heure feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique pour nous tenir informés un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Vous nous écoutez sur Graphite 94.9, bien sûr, sur Internet. Hein, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts également des émissions, donc n'hésitez pas. Et puis sur le 94.9, j'y arrive pour la bande FM et Graphite.net pour Internet, bien évidemment. Nous sommes donc le 16 avril en 1940, c'est la découverte du caveau intact du pharaon Amenhotep de la 21e dynastie. C'est à Tanis que ça a été découvert en 1940 par Pierre Monté. En 1955, toujours un 16 avril, le mot « ordinateur » est inventé par le professeur de philologie Jacques Perret. C'était à la demande de la société International Business Machine, IBM, bien sûr, et c'est en 1955 donc que le mot ordinateur est inventé. Et en 1972, c'est le lancement depuis Cap Kennedy de la mission Apollo 16, dont un module Orion se posera sur la Lune 4 jours plus tard. Naissance, le 16 avril 1838, d'Ernest Solvay. Solvay, chimiste, bien évidemment, hein, c'est un nom qui existe encore. Il est le fondateur de la société Solvay et compagnie. C'est un industriel belge et c'est un grand mécène de la recherche scientifique de son époque. Il est donc né un 16 avril 1838. Décès de Rosalind Franklin, qui était, ou Franklin peut-être d'ailleurs, Rosalind, qui était une physico-chimiste britannique, qui est donc décédée le 16 avril 1958 à Chelsea. Pionnière de la biologie moléculaire, elle formule la première dans un rapport qui n'était pas publié, la structure en hélice de l'ADN. Une découverte qui a été spoliée par Watson et Crick, qui vont accéder à son travail. Elle a également joué un rôle majeur dans la découverte du virus de la mosaïque du tabac. Elle meurt prématurément en 1958, donc d'un cancer de l'ovaire. Elle avait 38 ans et cette mort était probablement liée à l'exposition aux radiations lors de ses recherches. Et elle ne saura pas que les résultats vaudront justement à Watson et Crick le prix Nobel, qui vont s'appuyer sur ses travaux dérobés à son insu pour la découverte de l'ADN. Donc peut-être l'occasion aujourd'hui, en ce 16 avril, d'honorer la mémoire de Rosalind Franklin, physico-chimiste, j'y arrivais, britannique, décédée donc un 16 avril 1958. Au niveau de la médecine en France, il y a, on considère, environ 6 millions de personnes obèses, qui représentent à peu près 15% de la population adulte. L'obésité, c'est une des principales cause de décès dans le monde, car être en surpoids, c'est être exposé à un risque accru de développer un diabète, des maladies cardiovasculaires ou certains cancers. L'obésité est une maladie complexe, multifactorielle. Un lien a été récemment établi entre l'obésité et la dépression. Le manque de sommeil est l'un des facteurs de risque identifiés de l'obésité. Et donc la question, c'est si on allonge le temps de sommeil des personnes en surpoids, est-ce que cela pourrait leur permettre de perdre du poids? Eh bien, c'est ce que les auteurs d'un article récemment publié ont souhaité savoir. L'étude porte sur 80 adultes âgés de 21 à 40 ans ayant l'habitude de dormir moins de 6h30 par nuit. Les participants étaient en surpoids avec un indice de masse corporelle IMC compris entre 25 et 30. Et pour rappel, une personne est considérée comme obèse lorsque l'IMC est supérieur à 30. Alors deux groupes ont été constitués. Le premier ne change pas ses habitudes de sommeil, tandis que le second est encouragé à dormir plus via des séances de conseils sur l'hygiène du sommeil, le rituel du coucher, l'environnement de la chambre et ainsi de suite. Et une durée de sommeil de 8h30 est recommandée. En revanche, aucun conseil n'est donné concernant les apports alimentaires ou l'activité physique. Et donc les auteurs se sont intéressés à deux indicateurs principaux, la durée du sommeil nocturne qui est mesurée grâce à un moniteur et la quantité de calories absorbées chaque jour qui est mesurée grâce à un test urinaire. Et donc dans le groupe qui a reçu des conseils, la durée de sommeil a été allongée de plus d'une heure par nuit en moyenne comparée au groupe, à l'autre groupe qui était un groupe contrôle, et les apports énergétiques ont diminué de 270 kilocalories par jour en moyenne dans ce même groupe. Plus intéressant encore, la diminution des apports caloriques était proportionnelle à l'augmentation de la durée du sommeil. Ça veut dire que plus les patients dormaient longtemps, plus ils réduisaient leurs apports caloriques dans la journée suivante. On a constaté ce lien. Et donc, de manière intéressante et originale, les auteurs ont montré ici un lien entre la diminution des apports caloriques et la durée du sommeil. Alors, même si les mécanismes sont encore mal compris pour savoir pourquoi ça se passe comme ça, il semblerait qu'une bonne nuit de sommeil permette de réguler l'appétit le lendemain. Cette notion de temps de sommeil nocturne mériterait d'être introduite dans les programmes de prévention de l'obésité, nous dit-on. En tout cas, de surcroît, des conseils sur une bonne hygiène de sommeil pourraient être intégrés dans les régimes de perte de poids. Mais en tout cas, c'est la première fois apparemment qu'on aurait, grâce à cette étude récente, une stratégie toute simple pour perdre du poids. Ça serait dormir une heure de plus chaque nuit. Donc, à approfondir, bien évidemment. Là, on est quand même sur une étude assez succincte qu'il va falloir un petit peu étayer par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est une piste assez intéressante et qui, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on l'évoque dans cette émission. Vous écoutez Biotine, l'actualité scientifique tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Actualité scientifique, mais également un peu de musique.
You better fucking move. Do I look like I have shit to prove? Making moves, sit out, never smoke. Face known at the fish market, so don't start it. I make you want for kids a target. Ate the nana and drop the dog. So check the time and then I'm telling all my enemies to get in line. How you doing? I'm feeling fine. That's a lot. Ever since I turned 11, I've been dead inside. I've been groovy, your bitch moody. People saying that they knew me and we went to school. I do nothing and I make it local. You can follow all the rules and go and get a job. Hate your boss and kiss his ass at the same time. Really, that can never be me, I'll just take mine. Like Marvin, it's through the grapevine. And you ain't gotta meet me, we can FaceTime. Yeah, I played your tape and hit the pause after 1 second. Pouring Vossy on the floor and bumping John Legend. Really treat the world like a smoke section. I knew the answer, so I skipped the question. Whoa. I move slow and leisurely, everything I'm meant to be. Tell your girl to stop texting me. Do the crime, avoid the penalty. The pharmacy online, I got the remedy. I'm doing what I'm meant to be doing. Keep it moving like a drive-through. I spot the camel blue, set the hard code to start slapping you. Just remember who you're chatting to. And I'm not focused on the socials, just the capital. Set, walk with me, say, out. Mariachi. One.
Move sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis pour la rediffusion entre 10h et 11h sur graphite.net ou sur le 94.9. Merci de votre attention, votre fidélité pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Pas mal d'actualités au niveau médical, là encore, avec le principe de la schizophrénie, des hallucinations, des perceptions altérées de la réalité, des idées délirantes, un isolement social. Ce sont quelques-uns des symptômes de la schizophrénie, qui est une maladie psychiatrique complexe qui concerne environ 600 000 personnes en France. Ça, c'est un chiffre qui a été révélé. Je ne pensais pas que c'était aussi important. 600 000 personnes atteintes de schizophrénie. Et donc, les efforts de recherche pour la comprendre ont permis d'identifier plusieurs facteurs génétiques qui favorisaient son développement. Il y a une étude récente qui fait un pas en avant supplémentaire en localisant dans le cerveau la région qui est impliquée dans ce trouble. Il y a une mutation qui apparaît dans un gène qui code pour une protéine. Et cette protéine, c'est le facteur de risque de schizophrénie le plus important connu à ce jour. Cela augmente de 40% le risque de développer une schizophrénie. Donc le rôle normal de cette protéine qui s'appelle SAP97 n'est pas décrit en détail. Cette protéine est synthétisée par les neurones dans le cerveau et semble impliquée dans le fonctionnement des synapses. Alors les synapses, c'est la zone de communication entre deux neurones ou alors quand il y a un neurone qui est accroché à une cellule. Donc c'est la zone, un petit peu l'interface entre les deux éléments. Et cette zone de flou, ça a compliqué l'étude du rôle de cette protéine dans la schizophrénie. Et donc l'étude parue dans la revue Nature Communications, qui a été cette étude menée à l'université de Californie du Sud, elle s'est focalisée sur le rôle de cette fameuse protéine SAP97 dans une région cérébrale qui longe un petit peu l'hippocampe, qui est lui-même le pilote de la mémoire épisodique, parmi d'autres fonctions qu'il a, et on a étudié ça sur des rats qui étaient porteurs d'une forme anormale de cette fameuse protéine. Ils ont présenté un taux de glutamate qui est un neurotransmetteur responsable de la transmission du glutamate, quelque part, d'un point de vue énergétique. Eh bien, ce taux est très important. Et donc, du coup, il y a une observation qui lève le voile sur une fonction possible de cette protéine. Ça serait de pouvoir essayer d'agir sur cette zone du cerveau. Cette signalisation tout azimut a aussi un effet néfaste parce qu'elle induit des troubles dans la mémoire périodique chez les rats, qui est l'un des symptômes, bien sûr, de la schizophrénie. Et donc, cette étude, c'est la première à identifier la région cérébrale dans laquelle cette protéine SAP97 est active. Et c'est la première à lier les altérations que sa forme, qui serait donc mutée au niveau du gène, provoque justement dans cette zone du cerveau à la schizophrénie. Donc, on en sait un petit peu plus sur les origines de la schizophrénie. Alors, on en est encore très, très loin dans l'étape de pouvoir apporter des solutions thérapeutiques, bien évidemment. Mais quand on arrive à comprendre comment est né le mal, on peut essayer ensuite de pouvoir peut-être un petit peu mieux le contrôler par la suite. Mais là, c'est une étude assez intéressante parce que ça apporte là encore des éléments totalement nouveaux, bien évidemment. Autre chose, au niveau de la NASA, qui nous donne des informations assez inquiétantes, on va dire, sur les régions qui vont devenir inhabitables en 2050. 2050, c'est demain, il ne faut pas se leurrer, c'est très rapide. Le GIEC, hein, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime, le GIEC, qu'avec une augmentation de la température globale de la Terre, cette augmentation d'un degré et demi d'ici la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel, eh bien, il explique justement que la fréquence des épisodes de chaleur extrême sera multipliée par 4. Aux États-Unis, la chaleur est déjà le phénomène météo qui tue le plus depuis une trentaine d'années. On considère que depuis les 30 dernières années, justement, la chaleur a causé la mort directe de 140 personnes par an en moyenne. Et ensuite, c'est suivi par les inondations, puis les tornades, les ouragans, la foudre et la froid, la neige. Donc, le phénomène météo qui tue le plus aux États-Unis, c'est la chaleur. Et du coup, dans ce pays, les épisodes de chaleur extrême, on s'est rendu compte que ça a plus que doublé au cours des 40 dernières années. Alors, pour mesurer le degré d'inconfort lié à la chaleur et le risque sur la santé, les scientifiques utilisent deux indices. L'indice de chaleur, qui va combiner la température de l'air ambiant et l'humidité relative à l'ombre, et aussi ce qu'on appelle le wet bulb, c'est-à-dire un indice moins subjectif et plus précis. Ça caractérise la température la plus basse d'un objet ou d'un corps qui se refroidit lorsque l'humidité s'évapore de celui-ci. Et donc cet indice mesure tout simplement la faculté de notre corps à se refroidir grâce à la transpiration lorsque le temps est chaud et humide. Alors l'idée est ensuite de définir à partir de quel niveau notre corps n'arrive plus à se refroidir, et c'est à partir de ce niveau-là que le risque de mort devient réel. Ah, donc à l'origine, ce fameux critère, le wet bulb, était mesuré par un simple thermomètre entouré d'un linge mouillé exposé à l'air libre. Eh bien, le thermomètre enregistrait alors la température au moment où l'eau s'évaporait du linge. Et de nos jours, cet indice est calculé à partir de matériel un peu plus sophistiqué, d'un équipement électronique, notamment dans les stations météo qui fonctionnent avec les données satellites. C'est donc la NASA qui est impliquée, la NASA qui utilise des instruments situés dans la Station Spatiale Internationale, et l'organisme américain développe actuellement un nouveau projet dans le but d'obtenir des données plus précises sur le processus d'évaporation de l'humidité. Et donc les scientifiques considèrent que cet indice, le wet bulb, le plus élevé, l'indice le plus élevé auquel un humain peut résister, c'est 35 degrés pendant 6 heures. Les enregistrements de la NASA ont déjà relevé justement des indices wet bulb au-dessus de 35 degrés de nombreuses fois depuis une quinzaine d'années, notamment dans les régions subtropicales du Pakistan et du Golfe Persique. Et depuis 40 ans, la fréquence de ces wet bulbs extrêmement élevée a triplé. La majorité des régions chaudes et humides de la planète ont un indice qui n'excède pas en général 25 à 27 degrés. Bref, ils ont fait des simulations et ces modèles de prévision climatique de la NASA tente un petit peu de déterminer quels sont les pays où cet indice sera bientôt trop élevé pour pouvoir survivre. Eh bien, voici donc les résultats et la carte. Ce sera le cas du sud de l'Asie, du Golfe Persique, c'est-à-dire l'Iran, le Koweït, et les pays qui bordent la mer Rouge. Ça va être l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, le Yémen. Et dès 2050, l'est de la Chine, une partie de l'Asie du Sud et du Brésil devraient également dépasser régulièrement cet indice de 35 degrés d'ici 2070. Et la NASA prévoit le même sort pour certains États américains du Midwest d'ici 50 ans, par exemple l'Arkansas, le Missouri ou l'Iowa. Cependant, les chercheurs précisent que le risque de décès est présent même avec des indices plus bas. Lors de la vague de chaleur de juin 2021, donc l'année dernière, au nord-ouest des États-Unis, à l'ouest du Canada, on s'en souvient, eh bien, ce fameux indice n'avait pas dépassé 25 degrés. Il n'empêche qu'il y avait eu de nombreux morts. L'indice témoigne en effet d'un danger pour la santé, mais en tout cas, c'est pas que cet indice qui va donner, une indication précise, mais en tout cas, on commence à identifier les zones où ça va être particulièrement difficile de vivre. Et là, on aura bien évidemment un déplacement de population très important parce que ce sont des régions qui sont aussi très peuplées. Et on est dans une échelle de temps qui est quand même très réduite, 2050 pour les premiers pays qui ont été identifiés, bien évidemment. Voilà, allez, on écoute encore un petit titre et puis on verra par la suite ce que peut apporter la réalité augmentée au poker. Ça peut être utile des fois, allez savoir.
Je suis mordue, capricieuse bien-aimée, comme condamnée à te goûter. We'll be right back.
ma délicieuse. C'était Weinrich sur l'antenne de Graphite. L'actualité scientifique, on va continuer à la développer dans cette émission de Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. C'est ce que l'on fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas aujourd'hui. Et donc, je voulais vous parler de poker. Il y a une vidéo d'une partie de poker qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu, à l'intrigue, car elle montre une utilisation de la réalité augmentée pour assister le joueur. Les cartes et les joueurs sont bien réels, mais des pourcentages pour remporter la main s'affichent par-dessus de façon virtuelle. Alors, impossible toutefois de connaître l'origine de cette vidéo qui a été partagée par des spécialistes de la réalité augmentée, comme notamment Roman Heming, mais il est donc probable qu'elle représente un simple concept et non un produit fini. Elle ressemble néanmoins beaucoup à l'assistant de poker qui est imaginé par la firme géorgienne Ulni Scherer, qui semble également n'être qu'un concept. Alors, un tel système reposerait sur deux algorithmes d'intelligence artificielle. La première, elle est reliée à une caméra qui identifierait les cartes en main. Il existe déjà des projets en ce sens, comme celui développé à l'université de Stanford en 2017 et qui était basé notamment sur un logiciel de Google. Et puis, il y a donc une seconde, un second algorithme d'intelligence artificielle qui devrait analyser les combinaisons et calculer la probabilité d'avoir une main gagnante. Et c'est l'intelligence artificielle DeepStack qui est la première à avoir battu des joueurs de poker professionnels dès 2017 et serait donc en mesure d'effectuer ces calculs. Alors, il ne manque plus qu'un appareil doté d'une caméra et capable d'afficher les conseils de l'intelligence artificielle. Ce serait possible avec un smartphone, mais ça ne serait pas du tout discret. Donc, on pourrait utiliser des lunettes de réalité augmentée, comme les Google Glass ou les Microsoft HoloLens. Et il y a de nombreuses autres lunettes qui sont en cours de développement, qui seront probablement plus discrètes, qui vont sortir en fin d'année selon les rumeurs. Ça va être par exemple les Apple Glass ou encore les Smart Glasses de Xiaomi. Bref, on aura maintenant la possibilité d'avoir une intelligence artificielle qui va nous aider pendant nos parties de poker. Alors, ok, la technologie est géniale, mais alors là, du coup, il manque quelque chose, en fait. Hein, le côté un petit peu, le petit frisson du poker, on ne l'a plus, malheureusement, grâce à cette intelligence artificielle. Mais voilà, c'est comme ça. Hein, c'est aussi la technologie qui se développe et qui est de plus en plus perfectionnée et parfaite, en tout cas, et qui va peut-être pouvoir nous aider, je l'espère, en tout cas. Autre chose, et là c'est un appel à être vigilant qui nous est communiqué concernant les bouteilles en plastique. Alors on le sait hein, déjà que tout ça est nuisible à l'environnement et donc il est recommandé d'utiliser des bouteilles en plastique réutilisables. Mais il y a des chercheurs de l'université de Copenhague qui nous apprennent aujourd'hui qu'ils ont trouvé plusieurs centaines de substances chimiques dans des eaux qui étaient passées par ce type de bouteilles réutilisables, dont certaines potentiellement nocives pour notre santé. Il y a des produits destinés à rendre le plastique plus souple, il y a des agents de démoulage et même une substance connue pour être activement présente dans des sprays anti-moustiques. Eh bien, au total, les chimistes ont détecté plus de 400 produits issus du plastique en lui-même et jusqu'à 3500 substances dérivées des produits utilisés dans les lave-vaisselle. C'est totalement affolant. Les tests ont été menés sur de l'eau du robinet placée dans des bouteilles en plastique réutilisables après que l'eau ait séjourné à peu près une journée dans les bouteilles, des bouteilles neuves ou des bouteilles usagées, avant et après lavage en machine, puis après un rinçage soigneux. Et les résultats ne sont pas rassurants parce qu'il semble bien que le passage au lave-vaisselle ait pour effet d'user le plastique et ainsi d'augmenter la libération de ces substances solubles. Alors même après un rinçage supplémentaire, il reste dans l'eau environ 500 produits chimiques différents. C'est quand même totalement affolant. Plus de 100 sont issus du plastique dont est constituée la bouteille qui est pourtant neuve. Alors c'est pas parce que ces substances se trouvent dans l'eau que l'eau est toxique et nous affecte, hein, c'est ce que exprime Célina Tisler, qui est l'auteur principal de cette étude. Mais le problème est que nous ne savons tout simplement pas si c'est le cas, en fait. Et en principe, ce n'est pas si bien de boire des résidus de savon ou d'autres produits chimiques, bien évidemment. Alors, les chimistes notent que seulement une partie de ces substances sont intentionnellement ajoutées à la formulation des plastiques. Les autres se forment au cours du processus de production ou pendant l'utilisation de la bouteille. Et donc, sans aucun doute, quand on a retrouvé des sprays anti-moustiques, bah, ça pourrait être le résultat de la dégradation d'une substance qui servait à rendre le plastique plus souple. Donc là, on est plutôt dans quelque chose peut-être d'intentionnel. L'ennui, c'est que pour l'heure, les scientifiques n'en savent que très peu sur la toxicité de toutes ces substances. Et selon eux, bah, ça devrait nous encourager à la prudence et à préférer les bouteilles en verre cette fois. Alors maintenant, on va retrouver les bouteilles en verre. L'étude illustre le peu de connaissances sur les produits chimiques qui sont émis par les produits avec lesquels nos aliments et nos boissons entrent en contact. C'est ce qu'explique toujours Célina Tisler. Et du coup, elle appelle à des réglementations plus strictes en la matière. Mais voilà. Les scientifiques, une équipe de recherche, déconseillent de boire dans des bouteilles en plastique réutilisables. Et donc, de privilégier le verre. Et bien, privilégions le verre avec modération, bien évidemment.
Gonna show me some love, listen. And I'm not talking about the fake hugs and kissing. In 15 years, a lot of love is missing. I done already showed I'm not above the dissing. I'ma take what I'm owed, won't wait till I'm old. The game got rules and y'all breaking the code. Y'all don't really think I could be hot in the club. I think I'm washed up like a got in the tub, but I'm keeping it popping, the streets watching. I'm keeping them locked in, the beat knocking. Hear me coming with this song that I brung in. Daddy O told me this when I was a youngin'. Ain't nothing like hip-hop music. That's why we choose it. And the world just can't refuse it. This shit is underground like a gopher. Show a little love for it's over. Give me some of
that good old love. Gotta be the real thing. Something you can feel thing. Come on, let me make you sing.
Give me that good old love.
Give me some of that good old love. Gotta be the real thing. Something you can feel, thing. Come on, let me make you sing.
Let me put y'all on like a bulb in a socket. In the club, niggas knock it with a dub in the pocket. They walk in the store, I love when they cop it. Make you other rappers struggle to top it. But this man flow with the greatest ease. And never did care about the haters, please. He done paid his dues, paid his fees. He done stayed overseas, made his G's. But now I got a wife and she bad as Hallie. My mom's is a militant, dad is rowdy. Fans kinda act like they glad I'm outie. But they probably sitting at home sad and pouty. You show me some love, I'ma show it right back. I know a tight track, so I throw it like that. My limo driver's white, my attorney black. Show me some love like I'm Bernie Mac. Yo,
give me some of that good old love.
Gotta be the real thing. Something you can feel thing. Come on, let me make you sing.
Give me that good old love.
Give me some of that good old love. Gotta be the real thing. You can feel thing. Come on, let me make you sing.
This is for my Shaolin shooters and my Brooklyn teens. Uptown Bronx and them crooks and queens. I work like a maid when she cooks and cleans. Cause it's about to be a wrap from the looks of things. The game has changed, the game is strange. The game is lame and it ain't the same. But that's how it is, you can ask Iz. You can ask Biz, we did it for the kids. Listen here, this is different here. If you got an eye for detail and a fish your ear, I won't disappear, I'ma keep on giving. I'ma keep on living, I'ma keep being driven. I'm down to earth and I'm close to ground. It spit shit better than most around. This how hip hop is supposed to sound. Tear the mother cat's posters down now.
Gotta be the real thing. Something you can feel thing. Come on, let me make you sing.
Give me that good old love.
Give me some of that good old love. Gotta be the real thing. Something you can feel thing. Come on, let me make you sing.
Give me some of that good old love.
Philly, D.C., Virginia, Chi-Town, St. Louis, Houston, Atlanta, Los Angeles, San Francisco, England, Scotland, Germany, Austria, Sweden, Switzerland, France, Italy, Croatia, Spain, Slovenia, Japan, Austria, Africa. Show me love.
Show me some love, motherfucker. Show me some love.
Good of Love, c'était Master Ace sur l'antenne de Graphite. On va parler des lichens. Je crois que c'est la première fois dans cette émission qu'on parle des lichens. Les lichens résultent d'une symbiose permanente entre un champignon et des cellules microscopiques qui vont posséder de la chlorophylle. Ça peut être des algues, ça peut être des bactéries. Et les lichens se sont diversifiés pour s'étendre sur presque tous les continents et pour vivre sous différents climats. Aujourd'hui, ils sont la végétation dominante et ils recouvrent environ 8% de la surface terrestre et ils poussent généralement dans les lieux où aucune plante ne peut vivre, comme au haut des montagnes, sur les rochers du bord de mer, sur de la lave refroidie, ainsi de suite. Et donc, ils ont une importante contribution à la biodiversité et à l'écologie pour diverses raisons. Et bien, cependant, il y a des études qui ont montré justement que les lichens devraient être particulièrement vulnérables au changement climatique en cours. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines dans Frontiers in Microbiology qui a travaillé sur ces lichens pour essayer de prédire leur potentiel d'adaptation ou d'extinction face au changement climatique. Et dans cette étude, Matthew Nelson et ses collègues ont choisi d'étudier en laboratoire le genre d'un lichen qui est l'algue Trebuchsia, un lichen présent dans tous les écosystèmes terrestres, notamment dans les zones tempérées, dans les zones boréales ou également dans les Alpes. Et ils ont collecté des échantillons du monde entier, sont parvenus à reconstituer un arbre généalogique de ce fameux Trebuchsia pour essayer de comprendre comment cette algue s'est adaptée aux changements environnementaux qui se sont produits dans le passé. Eh bien, cette équipe de chercheurs a remarqué que ce Trebuchsia était très lent à s'adapter face aux changements climatiques passés, avec une tolérance de modification de température de moins de 1 degré tous les millions d'années. Sauf que là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Et si bien que ces résultats sont inquiétants face aux projections futures d'un réchauffement de l'ordre de plus 3 degrés d'ici 2100. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur une échelle d'un siècle et on va changer de 3 degrés alors qu'eux, il leur fallait 1 million d'années pour changer de 1 degré seulement. Si bien qu'on s'inquiète un petit peu pour se dire qu'une partie des lichens pourrait bien s'éteindre d'ici la fin de ce siècle et peut-être une partie non négligeable. Les scientifiques s'attendent à voir leur distribution géographique se modifier en se dispersant dans des endroits peut-être plus habitables pour eux, mais en tout cas, ils pourraient peut-être bientôt disparaître ou avoir ils vont morfler en fait les petits lichens à cause de ces réchauffements climatiques parce qu'ils ne sont pas du tout prêts à avoir une évolution aussi importante de la température du climat. Autre sujet, alors là c'est toujours un petit peu des domaines un peu polémiques, on va dire, que du coup j'évoque avec vous cet article de Futura Science qui parle de chercheurs chinois qui travaillent actuellement sur une nounou robotique capable de gérer les besoins de fœtus placés dans un utérus artificiel. Ils ont décrit leurs travaux dans la revue le Journal of Biomedical Engineering. Alors l'invention, elle est décrite comme une révolution dans un article qui expliquait que face à la chute du taux de natalité dans le pays, eh bien la Chine autorise les couples à avoir 2 enfants depuis 2016, puis 3 enfants depuis l'année dernière, et cela ne semble pas suffire et le taux de natalité est descendu à seulement 7,5 naissances pour 1000 personnes en 2021, c'est un chiffre historiquement bas et qui accélère le problème du vieillissement de la population. L'utérus artificiel, c'est ce qu'on appelle un appareil de culture d'embryons à long terme. Il est décrit comme un système qui contient des fluides nutritifs dans lesquels sont placés des embryons de souris pour cette expérience. Et l'appareil est surveillé par une intelligence artificielle qui peut ajuster les flux de dioxyde de carbone et également d'aliments et d'éléments nutritifs et de pouvoir intervenir sur certains facteurs environnementaux. Et donc l'appareil utilise 3 modules optiques à contraste de phase. L'idée, c'est de pouvoir surveiller les développements des embryons sans les manipuler et donc ainsi optimiser le fonctionnement du système. Et donc cette « nounou artificielle » entre guillemets peut également classifier les embryons selon leur état de santé et leur potentiel pour leur développement futur. Elle peut également détecter les anomalies et elle peut signaler tout problème majeur à un technicien. Alors les chercheurs se limitent donc actuellement à des embryons d'animaux, tout simplement parce que la loi internationale limite la recherche sur les embryons humains à 14 jours de développement. Il voudrait pourtant poursuivre au-delà, car il reste encore de nombreux mystères non résolus sur la physiologie du développement embryonnaire humain typique. C'est ce qu'explique Soon Hak-swan, qui a donc dirigé cette recherche. Une telle étude permettrait effectivement d'approfondir les connaissances sur la croissance des fœtus et des anomalies de développement. Mais enfin, on sait toujours ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lève certaines barrières, ça va être difficile de pouvoir canaliser l'ensemble des recherches par la suite. Il y a un autre obstacle qui empêcherait l'utilisation d'un utérus artificiel pour les bébés humains. La gestation pour autrui, est interdite en Chine et donc mettrait hors la loi tout hôpital qui aurait recours à ce procédé. Et donc, Soon Hak-swan explique, je pense qu'aucun hôpital ne voudrait assumer cette responsabilité. C'est pour ça que ça bloque un petit peu. Cela pose, bien sûr, et on en parle souvent dans cette émission, de nombreuses questions éthiques. Tout d'abord, le lien avec la mère, qui serait donc complètement rompu. Quel serait l'impact sur l'enfant? De plus, le recours à des utérus artificiels pour compenser un problème de natalité pourrait facilement tomber dans l'eugénisme, bien évidemment. Alors le risque serait de créer une société comme celle vue par exemple dans le film Bienvenue à Gattaca, où on ne conserve que les embryons les plus parfaits. Cela risquerait aussi de diviser la population en deux classes. Ceux qui sont nés d'un utérus artificiel, ceux qui proviennent des voies naturelles, ça pose des vraies questions, bien évidemment. Mais comme à chaque fois dans ce genre de sujet, je l'évoque très souvent dans cette émission, d'un point de vue technologique, c'est formidable. Enfin, d'un point de vue scientifique, médical, au sens large, c'est évidemment formidable. Après, il y a des questions purement éthiques. Et là encore, personne ne tranche. C'est-à-dire personne ne tranche parce qu'il n'y a pas de débat quelque part. Et là, il faut être dans un débat au niveau international. Et du coup, on voit très bien que c'est des sujets qui ne sont pas abordés, sauf que la science avance. Et comme je le répète assez souvent, là, ce sont des communications officielles qui paraissent dans des revues officielles. Donc, c'est ce qui est en train de se passer dans les laboratoires. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui existent ailleurs et peut-être de façon beaucoup plus avancée, notamment sur ces sujets-là, que l'on n'évoque pas, faute de communication, bien évidemment. Et donc, il faut être très vigilant. Donc là, voilà, encore une information assez troublante qui pose des questions éthiques, comme souvent dans cette émission, bien évidemment. Il faut toujours être vigilant, mais c'est ça aussi la science, et c'est aussi le but de cette émission. C'est un petit peu de nous sensibiliser face à ces sujets. Ouah, eh ben ça fait du bien. C'était Junan avec Arcosa sur l'antenne de Graphite. Toutes les musiques sur Graphite, bien évidemment, votre radio curieux sur le 94.9 et sur graphite.net. Va enchaîner après Junan, c'est pas simple évidemment, mais on va rester toujours dans le domaine médical parce qu'il y a pas mal d'informations que je n'ai pas eu le temps d'évoquer lors des émissions précédentes et du coup on va essayer de faire peut-être une thématique un petit peu médecine dans cette émission. Au Canada, à l'hôpital de Toronto, je vais y arriver, excusez-moi, des chercheurs ont réussi à changer le groupe sanguin d'un organe destiné à être greffé. En seulement 4 heures, les poumons ont changé d'identité, passant d'un groupe sanguin A à O. Il s'agit d'une étape importante dans la création de greffons universels qui seraient donc compatibles avec tous les patients. Avant de greffer un organe, les médecins doivent s'assurer qu'il est bien compatible avec le receveur pour éviter bien sûr tout rejet du greffon. Et le groupe sanguin du donneur doit être compatible avec celui du receveur. Pour les patients porteurs d'un groupe sanguin rare, comme par exemple B- ou AB+, l'attente peut être très longue, au détriment de leur état de santé. Et pour contrer ce problème, les chercheurs canadiens ont développé une technique pour se débarrasser des antigènes du groupe sanguin A qui sont exprimés par les globules rouges présents sur une graisse de poumon. Et l'opération se déroule ex vivo, c'est-à-dire en dehors de l'organisme. Le greffon est perfusé avec un cocktail de 2 enzymes et ces enzymes que nous avons trouvées dans l'intestin humain peut couper les sucres des antigènes A et B sur les globules rouges qui va donc les convertir en cellules universelles de type O. C'est ce qu'explique Stephen Wavers, membre de l'équipe de recherche affiliée justement à l'université de Vancouver. L'objectif de ces tests préliminaires est de s'assurer que ce cocktail d'enzymes élimine bien les antigènes A sur les globules rouges et qu'elles n'endommagent pas le greffon. Les enzymes concentrées ont permis d'éliminer jusqu'à 99% des antigènes A des globules rouges et au total 8 poumons ont subi le même traitement, ce qui fournit des résultats prometteurs parce qu'en moyenne 97% des antigènes A éliminés après 4 heures de traitement sans toxicité observable ont été donc constatés. Sans antigène de surface, eh bien le greffon il apparaît comme du groupe sanguin O et donc il devient de façon virtuelle universel et donc compatible avec tous les groupes sanguins. Aucun humain n'a encore été greffé avec un organe traité par ce protocole, parce qu'il reste encore beaucoup d'inconnus sur la viabilité de l'organe et la réaction de l'organisme, mais les chercheurs ont simulé une greffe entre des personnes normalement incompatibles et la perfusion de sang du groupe O dans le poumon, qui était autrefois du groupe A, n'a provoqué aucune réaction néfaste. Donc voilà, on est sur une solution qui permettrait justement de rendre un poumon compatible avec tous les patients. C'est assez intéressant, assez bluffant, bien évidemment. Toujours au niveau médecine, et c'est au niveau du cerveau humain, qu'est-ce qui rend le cerveau humain si spécial par rapport à celui de l'animal? Eh bien, ça va être l'organisation, ça va être ses cellules. Eh bien, on en sait un petit peu plus dans une étude qui est parue récemment dans la revue Nature Neuroscience. Il y a des chercheurs de l'université de Seattle qui a travaillé également avec une université hongroise et ils apportent un élément de réponse. Ils ont trouvé dans le cerveau humain un nouveau type de cellule qui n'était encore jamais vu dans des modèles animaux. Les scientifiques les ont surnommés les neurones églantiers à cause de leur morphologie qui évoque une qui aurait perdu ses pétales. Il s'agit de neurones inhibiteurs qui, justement, freinent l'activité d'autres neurones et les chercheurs ne sont pas certains que ces cellules soient spécifiques à l'espèce humaine, même s'ils n'en ont pas retrouvé dans le cerveau, par exemple, de rats, là où ils ont fait quelques recherches. Pour leurs travaux, les chercheurs ont disséqué des cerveaux d'hommes décédés à l'âge d'environ de 50 ans, qui avaient fait don de leur corps à la science, et ils ont réalisé des coupes sur la partie superficielle du cerveau qu'on appelle le cortex. En Hongrie, les scientifiques se sont penchés sur la forme et le fonctionnement électrique des cellules et aux États-Unis, ils ont plutôt travaillé sur l'expression des gènes. Et donc les chercheurs américains ont mis en évidence une signature génétique particulière chez ces cellules qui n'était jamais observée chez des neurones de rongeurs. Les chercheurs hongrois ont montré que ces neurones faisaient des synapses avec des neurones pyramidaux. Et donc, les synapses, ce sont un petit peu les zones d'interface entre deux neurones. Donc, ils ont vraiment détecté des choses totalement nouvelles. Les scientifiques, ils veulent continuer à étudier ces cellules pour en savoir plus, et notamment savoir si elles jouent un rôle dans certaines pathologies neurologiques, bien évidemment. Et puis, d'ailleurs, l'absence, par exemple chez la souris, de ces neurones typiquement humains, soulève la question de la fiabilité de ces modèles animaux pour l'étude de maladies comme Alzheimer. C'est-à-dire que si on fait des études chez la souris et qu'on se rend compte que finalement le cerveau de souris n'est pas totalement comme celui du cerveau humain, les résultats peuvent être faussés. C'est-à-dire qu'on aurait des interprétations qui pourraient être un petit peu erronées. Et du coup, ils veulent poursuivre les études parce qu'on aurait des modèles animaux qui ne seraient pas totalement fiables. Et ces études vont se poursuivre, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà un nouveau type de neurone découvert dans le cerveau humain en 2022. C'est assez étonnant comme information. Mais là encore, c'est pour ça que c'était assez important de pouvoir s'arrêter sur cette actualité médicale dans cette émission. On arrive bientôt à la fin déjà de cette émission. On va écouter un dernier titre et puis on se dira au revoir juste après, bien évidemment. On va écouter Avalon Emerson sur l'antenne de Graphite. Avalon Emerson sur l'antenne de Graphite avec Rutting Hills. Allez, dernière ligne droite, où on a peut-être encore juste le temps de parler d'un dernier article, toujours un petit peu dans la thématique de la médecine, hein, bien évidemment. À partir de 60-65 ans, il y a beaucoup d'individus qui se plaignent d'avoir un mauvais sommeil. Les réveils nocturnes sont fréquents et ces nuits fragmentées ne permettent pas un repos suffisant et ça nuit bien sûr de façon importante à la qualité de vie en journée de ces personnes. Parce qu'en effet, un mauvais sommeil, c'est associé à des risques accrus d'hypertension, d'arrêt cardiaque, de diabète, de dépression nerveuse. Alors bien que ce phénomène soit largement observé et connu depuis longtemps, les mécanismes ne sont pas toujours élucidés. Et bien, une équipe qui s'est intéressée à la question et qui vient de publier un article dans le prestigieux journal Science, les auteurs de cette étude se sont penchés sur ce qu'on appelle les hypocrétines. Seuls certains neurones du cerveau, il y a une très faible partie des neurones localisés dans l'hypothalamus. Je recommence ma phrase. Je vais y arriver. Les auteurs se sont penchés sur ce qu'on appelle les hypocrétines. Ce sont des neurotransmetteurs. Et il y a seuls certains neurones du cerveau qui sont localisés dans l'hypothalamus qui sont capables de produire ces neurotransmetteurs. Et ils sont impliqués dans l'appétit et dans l'état d'éveil. Ils sont un petit peu excitateurs, on va dire, ces hypocrétines. Ils initient et maintiennent un petit peu l'état d'éveil. Donc il y avait des travaux précédents qui avaient montré que les patients ayant de faibles taux d'hypocrétine avaient de forts besoins de sommeil et pouvaient souffrir, par exemple, de narcolepsie. Le sommeil est également perturbé avec l'âge et on a fait des essais sur la souris, ce qui en fait un bon modèle pour étudier le sommeil des personnes âgées. Il y a deux groupes qui ont été constitués, un groupe de souris plutôt jeunes et un groupe de souris plutôt vieilles. Et les souris âgées avaient bien des problèmes de sommeil avec des réveils nocturnes fréquents et les auteurs observaient que la quantité de neurones capables de produire ces fameuses hypocrétines était moindre chez les souris âgées comparativement aux souris jeunes. Et ces résultats peuvent paraître paradoxaux au premier abord parce qu'on a dit que les hypocrétines, elles étaient plutôt excitatrices et qu'elles maintenaient le réveil. Et on se rend compte que chez les souris âgées, eh bien, il y a moins de sécrétion de ces fameux hypocrétines. Mais les neurones restants présentaient une façon d'être hyper excité quelque part par rapport aux neurones du jeune souris. C'est-à-dire que même si il y avait très très peu d'hypocrétine qui était formulée, synthétisée, eh bien du coup les neurones étaient quand même directement excités. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'en avoir une grande quantité pour être excités, très très peu ça leur suffisait. Et c'est ça qui explique quelque part pourquoi du coup les neurones des souris plus âgés sont plus sensibles et donc du coup ça provoque l'état un petit peu de réveil qui est induit. Alors comprendre pourquoi on dort mal quand on vieillit, ça pourrait aider à développer des traitements un petit peu plus personnalisés, un peu plus adaptés bien sûr à ce trouble spécifique du sommeil. Alors il y a les somnifères qui sont actuellement disponibles et qui provoquent souvent un état de somnolence au réveil, ce qui va accentuer le risque de chute, donc évidemment c'est pas une bonne solution. Et grâce à ces travaux de ces chercheurs, il y a une nouvelle génération de somnifères qui pourrait être mise au point pour les personnes âgées qui souffrent de réveil nocturne et que du coup le fait de mieux comprendre le rôle de ces hypercrétines, c'est un drôle de nom, hein, hypocrétine, pardon, et bien du coup, on pourrait essayer de trouver un petit peu des solutions thérapeutiques qui seraient beaucoup plus efficaces, bien évidemment. Mais voilà, on en sait encore un petit peu plus sur le cerveau, là encore, en 2022, c'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est que on se rend compte que le cerveau est un domaine de recherche où il y a encore beaucoup, beaucoup de surprises qui nous attendent, bien évidemment. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne journée. C'est le week-end de Pâques, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, profitez de ce week-end de Pâques. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Le 94.9 pour ceux qui nous suivent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet, bien sûr. Merci de votre fidélité. À samedi prochain et à mardi pour la rediffusion à 10h. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.